Robert de Vauguet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes président d'Arkéon. On va parler avec vous de PME hein, et de financement de PME. On avait évoqué ce sujet ensemble il y a quelques mois maintenant. Vous aviez-vous plutôt alerté hein, finalement sur le fait que ce nouveau véhicule PEA-PME ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas les souscriptions attendues. Avec le premier bilan, est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça n'a pas marché ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est parce qu'effectivement, le produit qui a été mis en place, son écosystème n'est pas prêt. Son écosystème n'est pas prêt. C'est un produit qui porte des péchés mortels, presque. En particulier, l'impossibilité absolue de pouvoir se protéger contre un risque de marché. On l'a bien vu au mois d'août, lorsque les marchés ont beaucoup baissé. Moins 11% de performance sur les fonds PEA-PME et absolument aucune manière pour un gestionnaire de fonds aujourd'hui de se protéger. Pourquoi ? Parce qu'il a l'obligation d'être investi au minimum à 50% d'actions éligibles et pour le reste 50% éventuellement d'obligation. Mais on a un produit hybride, c'est-à-dire que les marchés montent. Si l'allocation d'actifs a été mal faite, on n'est pas performant. Les marchés baissent, alors là on est pris dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de se protéger. Donc ça c'est à mon sens une des grosses raisons de cette impossibilité d'attirer ou de mobiliser. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, rien n'empêche un fonds PEA de faire tout ce qui est possible de faire dans un fonds PEA-PME. Autrement dit, tous les titres éligibles au PEA-PME sont éligibles au PEA. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas d'élément de différenciation entre le PEA et le PEA-PME au moment où, justement, on a élevé les plafonds du PEA et que donc, la première réaction d'un certain nombre d'investisseurs, c'est de compléter leur fonds PEA avant d'aller d'ouvrir un compte PEA-PME.
Donc, quelque part, le produit ne répondait pas véritablement à cette attente. Il y a quand même derrière le financement des PME, donc ce n'était pas non plus neutre. C'était important ce sujet-là.
Alors, il y a une attente, elle existe toujours, mais comme je disais tout à l'heure, l'écosystème n'est pas là. Donc aujourd'hui, on n'est pas en confiance, l'investisseur n'est pas en confiance, le gestionnaire a un produit hybride qui ne répond à rien du tout. Donc il y a effectivement des ajustements à faire. Donc je pense qu'on est en bonne voie pour les réaliser et on a effectivement des idées sur ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer les choses.
Alors on a vu aussi hein, sur des fonds, finalement, les gestionnaires, ce qui est logique, aller choisir des sociétés, on va dire, de taille intermédiaire, hein. Donc on va dire les grandes mid-cap ou les grandes small-cap si l'on veut, quelque part pour ces questions justement de liquidité et de protection.
Ça a été une surprise, parce que ça on s'y attendait absolument pas, on s'attendait à un effet de ruissellement, c'était dit les investisseurs dans un premier temps vont se précipiter, les gestionnaires professionnels ou les particuliers vont se précipiter sur les sociétés les plus connues, donc les plus liquides, celles dont les capitalisations sont les plus importantes. Et on se dit, une fois que ces sociétés auront trouvé des valorisations, je dirais, généreuses, immédiatement, il y aura un effet de ruissellement et que, petit à petit, on descendra sur les sociétés moins capitalisées, ou en tout cas de moins grande taille, et on ira vers les sociétés d'Alternex. Et pas du tout. Nos gestionnaires, une fois qu'ils ont eu fait le plein des valeurs françaises, sont allés regarder ailleurs, et en particulier en Allemagne, des sociétés qui répondaient aux critères d'éligibilité du PEA-PME. Alors, même d'une manière complètement moutonnière, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les portefeuilles des fonds éligibles au PEA-PME des sociétés qui ont fait un déjeuner ou une présentation à Paris et tout le monde s'est précipité dessus. C'est un peu à la limite, c'est caricatural, mais on est dans la limite du système.
On peut dire qu'on a été européen, mais ce n'était pas forcément ce qu'avait en tête Bercy au départ.
Exactement, ce n'était pas du tout ce qu'avait Bercy et c'est vrai que c'est très difficile de budger à des quotas de valeurs françaises aujourd'hui.
Alors, vous parliez justement de protection. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas cette protection. Qu'est-ce que vous imaginez justement comme type de protection ? Est-ce que c'est dans le contenu du portefeuille, dans les outils qu'on va pouvoir utiliser dans ce véhicule-là ?
Alors, sur les outils, on est très limité, puisque dans le cas du PEA, on a accès à toutes les grandes capitalisations. Bien évidemment, dans les grandes capitalisations, on a tous les produits de couverture de risque, avec des couvertures sur indices, des couvertures sur certains titres. Donc, le gestionnaire est complètement équipé. Aujourd'hui, 22% des fonds PEA sont des fonds qui utilisent à fond ces couvertures, soit pour faire de la flexibilité, c'est-à-dire que je fais varier mon risque action de 0 à 100%, soit pour aller même sur des fonds qui sont définitivement organisés pour ne pas provoquer ou exposer au risque les fameux fonds de trésorerie PEA. Bon. Sur les sociétés éligibles au PEA-PME, on est sur des capitalisations qui sont inférieures à 1,5 milliard d'euros. Et bien évidemment, il n'existe aucune couverture. Couverture sur indice, il n'y a rien. Couverture sur action, il n'y a rien. Donc il faut trouver, je dirais, un élément de couverture naturel. Alors cet élément de couverture, on le connaît, ce sont les obligations convertibles qui avaient d'ailleurs été évoquées dans le projet initial du PAPME et qui aujourd'hui ne sont pas autorisées dans le PAPME. Alors, ces obligations convertibles permettraient d'avoir des fonds qui pourraient être complètement investis en obligations convertibles avec un risque moins élevé. Je ne dis pas de risque, parce qu'effectivement, on a deux risques qui subsistent. Il y a le risque de l'émetteur, bien sûr, et puis le risque de liquidité, l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure, d'une manière générale, sur l'ensemble des sociétés petites et moyennes. Donc, mais en laissant ces obligations convertibles accessibles sans réserve et sans limite à des fonds, donc pas direct à des particuliers, on aurait effectivement un véhicule qui pourrait être moins risqué et qui répondrait à la problématique de protection du risque de marché pour l'investisseur.
Donc là, il y a cette question de sécurisation des portefeuilles, quelque part, qui est la clé.
C'est la clé. Et alors, ça répond, vous savez qu'à l'origine du PAPME, c'était financer les entreprises petites et moyennes qui ont moins de facilité ou moins d'accès, à des financements de grosses entreprises. Bon. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, si on regarde le gisement des sociétés petites et moyennes et les émissions obligataires attachées à ces sociétés, on s'aperçoit aujourd'hui que 2% des sociétés, donc les plus grosses, les Morel, les Prom, les Solocal et d'autres, représentent 2% des sociétés cotées, représentent 80% de l'encours des obligations émise par ce gisement de société. Et en dessous de 250 millions d'euros de capitalisation, vous avez zéro. Alors, il y a eu quelques tentatives, mais qui sont très modestes. Le gisement global fait 4 milliards d'euros. Si on prend une initiative excellente, mais qui reste limitée, ce sont les fameux fonds Mikado. Mikado, c'est 100 millions d'euros à comparer avec 4 milliards d'euros, donc ça ne répond pas au sujet. Donc, effectivement, ces sociétés sont également très intéressées à émettre des obligations convertibles. Pourquoi ? Didier, vous êtes dirigeant d'une société cotée sur le PAPME, vous venez me voir pour faire une augmentation de capital. La première chose que je veux dire, c'est cours de bourse, moins 30%, donc on va faire une décote. Si j'émets une obligation convertible, elle peut se convertir en action, mais j'aurai une prime de conversion. Donc, par rapport au cours de bourse aujourd'hui, si je fais une augmentation de capital, ça, je suis à moins 30%, donc c'est très dilutif si, Didier, vous détenez, mettons, 20 ou 30% du capital de votre entreprise. En revanche, avec une obligation convertible, vous allez avoir une émission d'actions avec une prime de 30% ou plus ou moins par rapport au cours de bourse. Et donc, quelque part, on aura écrasé votre dilution de 60%, moins 30 plus 30.
Donc, c'est un sujet, effectivement, qu'il va falloir traiter dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour relancer la collecte? Puisque, finalement, on l'a dit initialement, cette collecte, elle n'est pas là aujourd'hui. Il y a ces éléments-là, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
Là, vous avez, sur les obligations converties, vous avez un vrai élément de différenciation, puisque je vous rappelle que dans les fonds PEA ou dans le PEA, vous ne pouvez pas avoir d'obligation du tout. Vous n'avez droit qu'à des actions. Alors, on contourne le sujet par les fameux dérivés dont on parlait tout à l'heure. Là, vous auriez un produit, je dirais, moins risqué, vous auriez éventuellement un produit avec du rendement. Bien évidemment, quand une société petite va émettre des obligations convertibles, quelle que soit sa structuration, on peut penser qu'elle va rémunérer l'investisseur. Donc, on va faire apparaître une notion de rendement qui sera, je pense, incitatif pour les particuliers. Souvenez-vous que sur le PEA, qu'est-ce qui a fait exploser le PEA ? À son origine, ça a été la possibilité pour les investisseurs de mettre l'emprunt Balladur qui venait d'être émis, c'était quelques mois après la création du PEA, et l'explosion du nombre de la création d'un nombre extrêmement important de comptes PEA a été fait par des investisseurs pour loger l'emprunt Balladur et s'exonérer de fiscalité sur la rémunération sur l'intérêt de l'emprunt Balladur. En recréant les obligations convertibles à travers des fonds PAPME, on aurait probablement, je dirais, le même genre de réaction de la part du public.
Voilà, eh bien on suivra ça et on en reparlera bien sûr à Bercy. Merci d'avoir été avec nous, Robert Devogui.
Merci Didier.